chronique finance avec Premia Moya.
Pour débrouiller l'actualité économique au pays, j'ai le plaisir maintenant de rejoindre notre spécialiste de l'économie et des finances. C'est notre fidèle Prime Niamoya que j'ai au bout du fil. Bonjour Prime.
Bonjour Guillaume.
Tu vas bien?
Très bien, merci.
Prime, la semaine dernière, le ministre des Finances canadien, Bill Morneau, a présenté son portrait de l'économie et des finances et a annoncé le déficit fédéral pour 2020-2021, un déficit qui, en chiffres, fait froid dans le dos, 343 milliards de dollars. Faut-il avoir peur, s'inquiéter de ce gonflement du déficit? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre ensemble. Est-ce qu'on peut commencer tout d'abord par expliquer, rappeler, bien entendu, on a tous à l'esprit la crise sanitaire du Covid-19 qui a frappé de plein fouet le Canada comme tous les pays du monde, quasiment sans exception depuis le début de l'année. Juste avant la crise, le déficit était évalué à seulement 28 milliards de dollars, si je ne m'abuse, pour 2020-2021. Alors là, les chiffres explosent littéralement.
Absolument, absolument, Guillaume. Mais c'est dû aussi à une situation exceptionnelle, parce que le coronavirus a créé une situation absolument unique dans le monde, qu'on n'a jamais vue.
Ouais. Donc, c'est d'ailleurs la première fois que le déficit canadien est si élevé, je crois.
Le plus élevé depuis la guerre, la grande guerre, le 40-45, parce qu'il y a eu des pics aussi pendant la période de 40-45, comme aux États-Unis par ailleurs.
En effet.
Le ministre des Finances annonce un déficit de 343 milliards, ce qui fera bondir la dette totale du Canada à plus de 1200 milliards de dollars d'ici de mars 2021.
Ouais.
Donc, c'est évidemment ça donne le tournis, en fait.
Et ça représente un fort pourcentage, j'imagine, du PIB canadien également.
Plus de 50% du PIB.
Plus de la moitié du PIB.
Et
on avait réussi depuis plusieurs années maintenant au Canada à réduire progressivement les déficits. On était plutôt très bien placé si on se compare à nos voisins et aux pays comparables, justement. Alors, cette explosion du déficit, elle est due à quoi, Prime? Elle est due aux mesures qu'ont pris les gouvernements pour lutter contre la COVID?
Entre autres, aux mesures exceptionnelles qui ont été prises par le gouvernement et la Banque centrale du Canada pour lutter contre le Covid. Donc, il faut se rappeler que il y a d'abord eu la prestation canadienne d'urgence et d'autres mesures qui ont. Et ce n'est pas fini, parce que personne ne sait aujourd'hui quand le Covid-19 va terminer.
En effet. Alors, un endettement majeur, auprès de qui est-ce que l'État canadien s'endette?
Écoutez, bon, c'est d'abord les investisseurs qu'on appelle institutionnels, et les caisses de retraite, les assurances, les fonds de pension, le placement, et les investissements étrangers. Alors, je signale que pour ce qui concerne l'achat des obligations fédérales, les étrangers constituent 36%.
D'accord.
Et pour les obligations provinciales, 25%. Tout. Et d'ailleurs, les investissements étrangers achètent parfois les obligations des provinces parce qu'elles sont beaucoup plus avantageuses que les conditions canadiennes.
Alors, quelle conclusion faut-il tirer de ces informations, Prime?
Bon, c'est que le Canada a encore une large marge de manœuvre pour continuer à s'endetter. Parce que la mesure, c'est le coût du financement du service de la dette qui est inférieur aujourd'hui au potentiel de l'économie réelle et qui met à 1% plus le taux d'inflation de 2%, donc qui est à 3,5%. Le coût de financement actuel au Canada est actuellement inférieur à 1%.
D'accord, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous autres Canadiens, mais malgré tout, pour les citoyens, c'est vrai que ces chiffres faramineux donnent le vertige et on a tendance à se demander si cet endettement massif, même s'il est, semble-t-il, nécessaire, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres solutions, comme quelle aurait été la politique économique alternative ou tout simplement est-ce la seule et unique solution d'après toi?
Bon, pour l'instant, c'est l'unique solution, Mais éventuellement, on pourra envisager ultérieurement, et ça c'est pratiquement certain, une augmentation des impôts.
Mmh. Okay.
Mais aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes dans une totale incertitude. Personne ne connaît la profondeur de la durée de la récession, du grand confinement qu'on appelle lockdown recession.
Ouais.
Donc personne ne sait. Donc tant que cette situation va perdurer, bon, le gouvernement et la Banque centrale vont continuer à intervenir. En réalité, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement le Canada. Quand on compare le Canada aux autres pays de l'OCDE, le Canada est plutôt un bon élève.
C'est ça. Et donc, on est plutôt bien placé dans cette crise qui est, donc, comme tu le rappelles, mondiale. Et il faut aussi rappeler que certainement que sans intervention du fédéral, eh bien, il y aurait eu encore plus d'emplois perdus probablement et un pays dans une situation encore plus difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que disent les économistes, Prime, sur l'éventualité d'une reprise? Je sais que c'est une question que lancinante qu'on se pose presque chaque semaine et il y a énormément d'inconnus, mais on a plusieurs sons de cloche, je crois. Est-ce que la reprise, d'après toi, est possible assez rapidement à court terme pour l'année prochaine, concrètement?
D'après les spécialistes, je pense que la reprise sera beaucoup plus lente que prévu. Mais il faut noter déjà que ce mois-ci, d'ailleurs, l'emploi a augmenté au Canada.
C'est vrai. Et cela veut dire que les politiques de confinement ont porté leurs fruits et que les politiques de déconfinement également très surveillées ont été efficaces, d'après toi?
Ah oui, bah, d'ailleurs, on prévoit la fin progressive de la prestation canadienne d'urgence. La subvention salariale et l'assurance emploi prendront le relais de la PCU.
Ouais.
Donc, mais on dit qu'il faudra 6 à 7 ans pour revenir à un ratio dette sur le PIB d'avant Covid-19.
C'est ça. Alors, bien sûr, la COVID a obligé le gouvernement à dépenser ces sommes faramineuses pour soutenir l'économie et avec donc à la clé, en corollaire, un déficit public qui augmente beaucoup et qui risque de continuer à augmenter. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas franchir?
Là aussi, je pense que le ministre des Finances n'a pas été très précis lors de sa prestation au Parlement canadien. Et quelle est la limite? Personne vraiment ne sait. Mais rappelle-toi que le premier ministre canadien avait dit qu'on utilisera tous les moyens nécessaires.
Ouais.
Donc ce n'est pas fini.
Ouais.
Mais ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que quand il y a une relance, même progressive, c'est qu'il y aura de moins en moins de recours à l'emploi massif de la prestation de la PCU. Donc, on peut espérer que les choses vont s'améliorer dans l'avenir.
Voilà, et puis pour terminer sur une note positive, comme on l'évoquait tout à l'heure en début d'entrevue, je crois que le Canada finalement était plutôt en très bonne position avant la crise en matière de dette gouvernementale, parmi les tout meilleurs élèves au niveau mondial en la matière. Et donc, cela nous laisse peut-être une plus grande marge de manœuvre que d'autres pays?
Oui, absolument, parce que, comme tu le soulignes bien, avant le Covid-19, le ratio de la dette sur le PIB était de 35% environ. Bon, ça va augmenter considérablement dans les prochaines années, mais par rapport aux autres pays de l'OCDE, je dirais que le Canada se porte plutôt bien.
Voilà, avec une dette nette de 26% du PIB canadien, selon le FMI, comparativement, par exemple, à 76% au Royaume-Uni ou même 84% aux États-Unis, sans même parler de 123% en Italie. On est plutôt pas si mal loti, finalement, au Canada. Merci beaucoup, Prime, pour ce point économie sur les ondes de choc.
Pas de quoi, Guillaume. À bientôt.